Vous écoutez, on lit pour vous.
Les fugues, encore en hausse, un dossier d'Ariane Lacourcière, paru le 8 décembre 2025, dans la presse. Les fugues sont en hausse dans les centres de réadaptation jeunesse du Québec pour la 5e année consécutive. La mère d'un adolescent hébergé dans les Laurentides, fugueur à répétition, déplore que trop peu soit fait pour protéger son enfant. Mais la directrice nationale de la protection de la jeunesse, Leslie Hill, réplique qu'un encadrement trop sévère n'est pas la solution. C'est la petite école de l'itinérance. Hébergée en centre de réadaptation jeunesse depuis près d'un an à Sainte-Thérèse, le fils de 17 ans de Mélanie, prénom fictif, multiplie les fugues. Pendant ses nuits à l'extérieur, le jeune homme flâne dans des parcs, erre de dépanneur en dépanneur ou dort près de guichets automatiques. C'est la petite école de l'itinérance, déplore sa mère. Elle dénonce la faiblesse des mesures prises par le Centre de réadaptation pour jeunes en difficulté d'adaptation, CRJDA, pour mettre un terme aux échappées de son enfant et lui apporter toute l'aide dont il a besoin. Il est sous la protection de la jeunesse, mais on ne le protège pas, sous prétexte de respecter ses droits et libertés, dénonce Mélanie. Elle souligne que les gouvernements martèlent sur toutes les tribunes qu'il faut agir pour endiguer la crise de l'itinérance. On parle de construire plus de logements, mais on ne pense jamais à s'attaquer à la source du problème, dit-elle. Or, depuis 5 ans, les fugues sont en constante augmentation dans les CRJDA, selon des données du ministère de la Santé et des Services sociaux, M3S. 2020-2021, 874. 2021-2022, 973. 2022-2023, 1294. 2023-2024, 1450. 2024-2025, 1505. Et la tendance se poursuit en 2025-2026. J'ai juste les données pour la moitié de l'année. Mais je vois que si la tendance se maintient, on va dépasser légèrement 2024-2025, confirme la directrice nationale de la protection de la jeunesse, Leslie Hill. Environ 75% des jeunes fugueurs reviennent en CRJDA dans les 24 premières heures. Ce n'est pas pour eux que je m'inquiète. C'est plus pour les enfants qui se mettent en danger, affirme Mme Hill. Des données obtenues par la presse en vertu de la loi sur l'accès à l'information montrent que les fugues sont en forte hausse dans plusieurs régions, dont la Naudière, surtout au campus de Joliette, où 155 cas ont été recensés en 2025. Et l'année n'est pas encore terminée. Le CIS de la Naudière explique la situation, notamment par la présence de jeunes avec une dynamique comportementale associée à la fugue. Plusieurs mesures ont été mises en place pour corriger la situation, dont des plans d'intervention individualisés. Pour les 6 premiers mois de l'année, le CIS de Chaudière-Appalaches a quant à lui enregistré 437 fugues contre 309 l'an passé. La relationniste du CIS, Dominique Lessard, affirme que cette hausse s'explique notamment par un phénomène d'effets de groupe, particulièrement durant la période estivale. Certains fugueurs répétitifs font aussi augmenter les statistiques. Au CIS de l'Outaouais, le nombre de fugues en CRJDA est en augmentation depuis 2020, entre autres à cause de la hausse progressive du nombre de jeunes hébergés indique l'établissement. Dans les unités occupées à plus de 100%, les intervenants ont moins de temps pour des approches personnalisées avec chacun des jeunes, ajoute le 6 de l'Outaouais. Une adolescence difficile. Adopté en bas âge d'un pays d'Amérique du Sud, le fils de Mélanie, Lucas, prénom fictif, a connu un début de vie difficile. Il a fait plusieurs familles d'accueil avant son arrivée ici, dit sa mère. À 4 ans, Lucas ne parlait pas. Il ne savait pas manger, ni courir. Malgré un trouble de l'attachement, une légère déficience intellectuelle et un trouble de l'opposition, l'enfance de Lucas au Québec s'est déroulée plutôt normalement, dit Mélanie. Celle-ci nous parle d'un enfant charmant, débrouillard, et qui a un sens de l'orientation hors du commun. Mais à l'adolescence, tout bascule. Lucas ne respecte plus du tout l'autorité. À la maison, la situation devient tendue. Il fait parfois des crises d'une violence telle que ses parents ont peur. Au bout du rouleau, Mélanie se résigne à confier son fils au CRJDA de Sainte-Thérèse en septembre 2024. À partir de ce moment, on a mis le doigt dans l'engrenage, affirme-t-elle. Au départ, Lucas ne fugue pas. Ça a commencé au printemps 2025, raconte Mélanie. Son fils a alors 16 ans. Ouvert en décembre 2024, le CRJDA de Sainte-Thérèse est l'un des rares qui ont été construits à neuf dans la province. Mais depuis l'ouverture, les fugues s'y multiplient. On s'y attendait, déclare la directrice de la protection de la jeunesse des Laurentides, Marie-Noëlle Granger. Notamment parce que le centre est en zone urbaine et qu'il ne compte que des unités ouvertes. Les enfants peuvent sortir s'ils le demandent, s'ils n'ont pas de mesures d'empêchement, affirme Madame Granger, qui note que, dans la quarantaine de fugues cette année, plusieurs sont liés à un noyau dur. Les premières fugues de Lucas au printemps ont été de courte durée. Mais au fil des semaines, elles se sont prolongées et multipliées. Il se développe une certaine expertise là-dedans. Il devient meilleur. Les fugues sont de plus en plus longues. Jusqu'à la première nuit entière, en juillet, relate Mélanie. Durant ces nuits, Lucas va parfois chez des amis, sinon au Tim Hortons, dans des dépanneurs ou près de guichets automatiques. Il apprend à survivre dans la rue, affirme sa mère. Rencontrée le 17 novembre, Mélanie affirme que son fils a fugué à 3 reprises dans les 7 derniers jours. Dans la semaine précédente, il avait fugué à 4 reprises. Chaque fois, les parents vivent un stress énorme. « Je dors peu ou pas quand il fugue », dit la mère. Quand Mélanie lui demande pourquoi il fugue, Lucas répond qu'il n'est plus capable du centre jeunesse et des règles. Elle déplore qu'à chaque fugue, son fils se mette en danger, mais rien n'est fait pour l'en empêcher. Vous écoutez Les fugues encore en hausse, un dossier d'Ariane Lacourcière paru le 8 décembre 2025 dans la presse. Respecter les droits et libertés. Madame Granger convient que les parents peuvent avoir l'impression que tout est permis en CRJDA, mais elle explique qu'il est primordial de respecter les droits et libertés des jeunes. Dans certains cas, des mesures d'empêchement de fugue peuvent être imposées. Mais pour ce faire, l'adolescent doit se mettre en danger, comme se diriger vers un réseau de proxénètes, où il doit représenter un danger pour la collectivité. seulement 3 des 90 jeunes hébergés au CRJDA de Sainte-Thérèse font actuellement l'objet de telles mesures. Lucas n'en fait pas actuellement partie. Il consomme quand il fugue. Il manque de jugement. Il peut même voler. Ce n'est pas assez pour établir qu'il se met en danger, déplore la mère de Lucas. Mélanie estime que les critères pour imposer ou non des mesures d'empêchement de fugue sont flous et fluctuants. Madame Granger explique que garder de force les enfants dans les CRJDA peut avoir un impact encore plus important sur eux que de les laisser fuguer. Leslie Hill est consciente que les parents s'attendent à la sécurité maximale en CRJDA. Mais honnêtement, enfermer, ce n'est pas la bonne façon de faire. Je comprends que ça a l'air plus sécuritaire. Mais quand ils sortent de là, ces jeunes nous disent « Vous avez détruit ma vie ». D'ici quelques mois, Lucas sera majeur. Sa mère craint beaucoup ce qui s'en vient. Quand elle lui demande ce qu'il veut faire après son passage au centre jeunesse, Lucas répond « Survivre ». « Mon mari et moi, on est restés sidérés », dit-elle. « C'est maintenant qu'il faut intervenir. Ça vaudrait la peine d'essayer avant qu'il ne se rende là. » En savoir plus, source, étude sur le devenir des jeunes placés au Québec, 33% pourcentage des jeunes sortant d'un placement à la DPJ qui vont vivre au moins un épisode d'itinérance avant l'âge de 21 ans. De milieux trop restrictifs à trop libertaires? La directrice nationale de la protection de la jeunesse, Leslie Hill, reconnaît que la hausse des fugues dans les centres de réadaptation jeunesse du Québec peut être due en partie au fait que, depuis son arrivée en poste, elle a donné un solide coup de barre et a demandé de diminuer le recours aux mesures restreignant les libertés. C'est possible qu'on utilise un peu moins les mesures restrictives, ce qui fait que les jeunes prennent la poudre d'escampette plus facilement, dit-elle. Madame Hill affirme que le sujet des fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficulté d'adaptation, CRJDA, est complexe et multifactoriel. Mais pour elle, il faut éviter le plus possible la répression, quitte à ce que des fugues surviennent. On peut enfermer tout le monde, et tout le monde va être physiquement en sécurité. Mais psychologiquement, ils vont être détruits, assure Leslie Hill. Certains jeunes qui ont été maintenus en CRJDA pendant des années sont incapables d'intégrer un quotidien normal une fois adultes. Pourquoi les fugues? Professeur agrégé au département de psychoéducation à l'Université de Sherbrooke, Sophie Couture s'intéresse à la question des fugues en CRJDA depuis 10 ans. Elle explique que plusieurs raisons peuvent amener un jeune à fuguer. Essentiellement, on va fuguer de ou fuguer vers, dit-elle. Par exemple, certains veulent partir parce qu'ils sont en chicane avec un autre adolescent hébergé ou en opposition avec leur éducateur. D'autres veulent juste répondre à des besoins développementaux normaux, comme aller voir leurs amis ou leur fratrie. Plusieurs ont vécu des expériences traumatiques, rappelle Madame Couture. Leur bagage de vie fait qu'ils sont souvent plus facilement irrités par la surstimulation, dit-elle. Et quand ils sont mis dans des unités de vie bondées, où les éducateurs ne sont pas toujours les mêmes, ça peut être plus difficile. Membre du conseil d'administration de l'organisme En Marge 12-17, qui vient entre autres en aide aux jeunes fugueurs, Audrey Paré-Fortin explique qu'il y a autant de raisons de fuguer qu'il y a de fugueurs. même si elle n'a jamais été hébergée en centre de réadaptation jeunesse, la femme de 27 ans a côtoyé la DPJ et a fugué à quelques reprises. Des fois, c'était pour essayer de trouver du réconfort, témoigne-t-elle. D'autres fois, pour prendre un pas de recul sur ma situation, parce que je n'étais pas bien. Lors d'une fugue, elle a été dirigée vers En Marge 12-17, qui est devenu son organisme pilier. Je ne me suis pas mise en danger, et ma fugue m'a permis de vivre par moi-même et de me construire, dit-elle. Gérer le risque n'est pas facile. Représentante nationale de l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux, APTS, dans les Laurentides, Marie-Ève Meilleur estime toutefois qu'on est passé d'un extrême à l'autre en CRJDA, soit de milieu trop restrictif à trop libertaire. C'est bien qu'aujourd'hui, on est très frileux à accorder des mesures d'empêchement de fugue. Nos intervenants sont mal à l'aise. On est censé protéger les jeunes, mais avec la nouvelle approche, on a l'impression de les mettre plus à risque, estime Marie-Ève Meilleur. Selon moi, n'importe quel enfant qui fugue se met à risque, ajoute le responsable national du dossier de la jeunesse de l'APTS. Sébastien Pitre, qui souhaite lui aussi qu'on revienne au juste milieu entre un monde de trop d'interventions et un monde de liberté totale, en CRJDA. Sophie Couture reconnaît que pour les intervenants, gérer le risque n'est pas facile. Mais elle souligne qu'une minorité des jeunes se mettent à risque en fuguant. Madame Couture affirme que des études ont montré que les mesures restrictives de liberté apportent beaucoup de détresse chez les jeunes. Elle estime que pour prévenir les fugues, mieux vaut offrir des milieux stimulants. Pour Audrey Paré-Fortin, il est aussi important de faire de la prévention afin d'informer les jeunes des dangers en cas de fugue, comme le risque d'être attiré par des proxénètes. Mais clairement, plus tu enfermes les jeunes, plus tu vas avoir de fugues, estime-t-elle. Leslie Hill assure ne jamais avoir dit de ne pas appliquer les mesures d'empêchement. Pour elle, chaque fugue doit être analysée pour déterminer si un jeune se met en danger et si des restrictions doivent être imposées. Mon attente envers le réseau, c'est de faire preuve d'un jugement professionnel, pas d'automatisme, dit-elle. C'est vrai que mes directives dérangent mon réseau présentement, reconnaît Leslie Hill. Mes intervenants travaillent fort. Mais je pense que le balancier va revenir par lui-même, parce que c'est le gros bon sens qui est demandé. C'était Les fugues encore en hausse, un dossier d'Ariane Lacourcière, paru le 8 décembre 2025 dans la presse.
Orwell était Antifa, un texte de Marc Cassivi paru le 11 octobre 2025 dans la presse. Il n'y a pas vraiment matière à sourire dans Orwell. 2 plus 2 égale 5, le nouveau documentaire de Raoul Peck sur l'auteur de 1984. À peine quelques mots d'esprit d'Orwell, qui confie à son éditeur qu'il aurait préféré écrire son chef-d'œuvre dystopique sous une autre influence que celle de la tuberculose. Il est mort quelques mois après sa publication, en 1949. Il reste qu'aux deux tiers de ce portrait biographique fascinant, doublé d'un réquisitoire contre la montée de l'autoritarisme, J'ai souri à m'en infliger une crampe à la mâchoire. Je me suis retourné dans la salle du cinéma du parc vers un vieil ami qui souriait, lui aussi. La raison? Une image d'au plus 3 secondes. Orwell, 2 plus 2 égale 5, établit des parallèles entre les observations prescientes d'Orwell, qui s'opposait farouchement à toute forme de totalitarisme, et le climat politique actuel, marqué par la montée de l'extrême droite en Occident. Raoul Peck, cinéaste du remarquable « I am not your Negro » en 2016 sur James Baldwin, compare le culte de la personnalité de Big Brother dans 1984 à celui de différentes figures autoritaires dont Donald Trump. Peck s'en prend aux oligarques des technologies que sont les Bezos, Musk et Zuckerberg, les nouveaux Big Brother. Des ultra-riches de plus en plus riches, prêts à faire des voyages inutiles dans l'espace au mépris de l'environnement parce qu'ils en ont les moyens, alors que ces sommes gaspillées pourraient nourrir des centaines de milliers de personnes. Le cinéaste haïtien dénonce le manque d'indépendance de certains médias, ceux en particulier des Murdoch et Bolloré, qui orientent l'information au profit du pouvoir en place. Des médias suivront par exemple dans le menu détail l'opération vaine de sauvetage d'un petit sous-marin de millionnaire, pendant que des migrants meurent en mer sur des embarcations de fortune dans l'indifférence absolue. Sauf exceptionnellement lorsque la mer recrache un petit réfugié syrien, Alan Kurdi, échoué visage joufflu contre le sable, comme s'il s'était endormi sur la plage. « L'ignorance, c'est la force », écrit Orwell dans 1984, en faisant un credo du parti et de sa police de la pensée. « On répand des mensonges plus vite que des vérités », rappelle dans le film la journaliste d'enquête et prix Nobel de la paix Maria Ressa. Raoul Peck nous présente des partisans aveuglés du mouvement MAGA qui avalent les couleuvres de Donald Trump sur le processus électoral soi-disant vicié ou les gens formidables qui ont pris d'assaut le Capitole. À l'écran, Benjamin Netanyahou déclare qu'Israël cherche la paix. « La guerre, c'est la paix », écrit aussi Orwell, un autre credo du parti. Défile ensuite, dans le montage dense et foisonnant d'Orwell, 2 plus 2 égale 5, les visages de ténors de l'extrême droite, dont les discours anti-immigration ont été normalisés par des médias complaisants. Viktor Orban, Vladimir Poutine, Javier Milei, Giorgia Meloni, Marine Le Pen, Éric Zemmour. C'est alors qu'apparaît Mathieu Bock-Côté sur le même plateau de télévision que Zemmour. J'ai souri, très fort, à cette extrême ironie. Orwell, un militant socialiste, est de nos jours récupéré par bien des réactionnaires qui s'en réclament pour mieux détourner et dénaturer le concept de novlangue. Orwell, que brandissent les héros de la droite anti-woke, serait sans doute qualifié aujourd'hui, par ceux-là même, d'antifa, voire de terroriste. Il a combattu le fascisme. Il s'est joint à la fin de 1936 à la résistance au franquisme, aux côtés de sa femme, morte quelques années plus tard. C'est là qu'il a été blessé, recevant une balle à travers de la gorge. Orwell a dénoncé tous les autoritarismes, pas seulement le stalinisme, dans Animal Farm, et ses apologistes naïfs, à commencer par Sartre. Chaque ligne des ouvrages sérieux que j'ai écrits depuis 1936 a été écrite, directement ou indirectement, contre le totalitarisme et en faveur du socialisme démocratique tel que je le conçois, écrit-il en 1946 dans son essai « Why I Write, pourquoi j'écris », abondamment cité dans le film de Raoul Peck par le suave narrateur Damian Lewis. Orwell était un rebelle. Lorsqu'il a rejoint la BBC pendant la guerre, a-t-il écrit, il tentait de faire en sorte que la propagande soit légèrement moins dégueulasse que ce qu'elle pourrait être. Il en avait contre les manipulations et les doubles discours, le colonialisme et le racisme, les privilèges accordés aux Blancs de la classe moyenne aisée dans son Inde natale, comme en Birmanie, l'actuel Myanmar, où il a été policier de l'Empire britannique pendant 5 ans dans la machine du despotisme. Orwell était bien sûr un être de paradoxe, un progressiste conservateur, un patriote et un humaniste. Ce qu'il entendait par novlangue, en revanche, est bien clair. Et cela n'a rien à voir avec les mots en « yel » que le gouvernement caquiste compte interdire dans ses publications officielles. Ce sont plutôt les euphémismes utilisés par ceux qui sont au pouvoir pour mieux contrôler le message et les masses, afin de le rendre plus digeste et acceptable. Raoul Peck en offre quelques exemples. Dommages collatéraux, pour désigner le meurtre de civils, appuyé par des images des décombres de Gaza. Antisémitisme, en 2024, pour qualifier toute critique d'Israël. Immigrants illégaux, pour déshumaniser réfugiés et demandeurs d'asile. Les exemples de novlangue sont infinis et n'ont rien à voir avec le point médian et l'écriture inclusive. L'expression « capacité d'accueil » pour parler des migrants qui font des jobs que personne d'autre ne veut faire. « La liberté, c'est l'esclavage », écrit Orwell dans 1984. Grâce à un habile montage d'extraits de reportages qui disent l'état du monde anxiogène dans lequel nous vivons, Raoul Peck fait des parallèles entre hier et aujourd'hui. Entre les maisons détruites à Londres par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale, celles rasées à Kiev par la Russie ou en Palestine par Israël. L'histoire se répète cruellement, inlassablement. Autrefois, on brûlait des livres. Il y a 2 ans, plus de 3300 livres ont été bannis aux États-Unis. Devinez par qui? Un indice. Ce ne sont pas des woke. C'était « Orwell était Antifa », un texte de Marc Cassivi paru le 11 octobre 2025 dans la presse.